France Culture.
Le mot la romance.
Pourquoi ?
Bah parce que autour de moi, on va dire que les personnes que je connais, je vois beaucoup de gens amoureux en couple et ça m'a dégoûté de l'amour pendant un certain temps parce que je me dis faut que je trouve un truc à faire parce qu'il m'énerve. Je me suis un peu rabattue sur les livres et j'ai beaucoup aimé la romance parce que tu peux t'évader de ton truc. En même temps, la romance, ça te permet de t'encadrer dans un amour un peu différent de ce que tu peux voir au quotidien.
Ouais, le cœur qui palpite, on devient rouge, on n'arrive plus à parler. On veut aller lui parler, mais on fait demi-tour parce qu'on fait des gestes brusques, on n'arrive plus à regarder dans les yeux. Et bah voilà, hein. On s'identifie comme la personnage un peu principal de la romance. C'est nous en fait, c'est comment on fait. Cette romance-là existe en fait dans notre société ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça peut remonter le sourire de certaines, voilà.
Et je pense, nous, surtout qu'on est des filles, je sais pas, on a grandi avec Cendrillon, je sais pas, on aime bien s'imaginer souvent à la place du personnage principal. On a tous été au moins une fois une princesse quand on était petite.
Si, par exemple, on est une collégienne et que c'est notre première fois qu'on est amoureuse ou quelque chose, comme ça, y a une rupture où on voit que du coup, c'est pas la même chose. Et ça peut quand même nous marquer du sens que, ah, c'est pas comme ça en fait.
La lectrice.
Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez. Épisode 4, trop sensible à la romance. Celles qui lisent ont le mauvais goût de l'intime. Les femmes auraient ce penchant pour la littérature rose, sentimentale. Une littérature populaire qui flore bon la romance. Lorsque l'homme préfère lui laisser la politique, l'histoire. En somme, le cours du monde. Pourquoi des romans à la si mauvaise réputation sont-ils autant lus ? Et qu'est-ce que nous avons retenu de la romance ?
La littérature pour femmes émerge dans les premières années du 19e siècle.
Isabelle Matamoros, historienne.
Il y avait déjà des romans écrits par des femmes avant cette date. Il y avait déjà aussi des romans qui parlaient de femmes, qui mettaient en scène des héroïnes. Je pense par exemple au roman de Madame de Staël, un roman comme Corinne, qui est l'un des grands succès du Premier Empire, était lu aussi bien par des lectrices que par des lecteurs. Et pourtant, il mettait en scène une héroïne. Or, dans les années 1820 et 1830, cette littérature sentimentale, comme elle s'appelait déjà à l'époque, c'est-à-dire une littérature romanesque qui explore les sentiments de l'être humain, commence à être catégorisée comme une littérature féminine. Les études ont beau dire qu'il y a plus d'hommes qui écrivent cette littérature que de femmes, eh bien, elle va quand même être catégorisée comme une littérature féminine, écrite pour des femmes. Et dans cette logique, elle va être très fortement dévalorisée.
C'est des romans plutôt populaires, à destination d'un public populaire. Dès le 19e siècle, on a énormément de romans sentimentaux.
Marie Baudry, enseignante-chercheuse.
Et puis tout le long du 19e siècle, ça va évoluer, mais c'est une littérature qui va perdurer, qui va se renouveler. Avec ensuite, à partir des années 50, le roman Harlequin, né au Canada, aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, l'essor de la romance, de la new romance, de la dark romance, etc. À chaque fois, c'est à destination d'un lectorat plutôt populaire. Donc une des condamnations finalement, c'est aussi une condamnation sociale. C'est pas qu'une condamnation d'une mauvaise pratique et d'une peur, par exemple, féministe, et qui serait légitime de dire la romance actuelle, et surtout la dark romance, continue à mettre en avant des modèles patriarcaux de violence à l'égard des femmes, de relations non consenties, etc. Et donc là, ce serait... À ce titre-là, c'est tout à fait légitime de dire que c'est une littérature problématique. Mais ce qui est aussi problématique et qu'on soulève moins, c'est qu'à chaque fois, on met en avant un lectorat qui serait impuissant à faire la part des choses, qui serait trop jeune, trop immature, un petit peu bête.
Il y a un mépris, voire un dédain de la romance. Enfin, si je peux être très précis, c'était encore le cas il y a 2-3 ans, où les gens se pinçaient le nez, que ce soit les éditeurs de la rive gauche de Paris, on va les appeler comme ça, mais aussi les clients magasins, qui, quand ils avaient de la romance, le mettaient sous les étages. Là où aujourd'hui, avec l'explosion du marché et la prise de pouvoir de la communauté par l'acte d'achat et par les ventes de livres, aujourd'hui, les magasins ont accepté de faire des linéaires de romance et les éditeurs qu'on va continuer d'appeler de la rive gauche de Paris créent des labels de New Romance, sans arriver pour autant à y comprendre les codes et à faire des succès, mais en tout cas, ne peuvent plus se passer d'être présents sur ce marché-là. Arthur de Saint-Vincent, je suis directeur général de Hugo Publishing, et on est une petite maison d'édition, surtout connue pour la romance, qui fait une 90aine de millions de chiffres d'affaires et qui emploie une 60aine de personnes. En 2013, on publie notre premier livre de New Romance, qui à l'époque n'était pas New Romance parce que Hugo a déposé la marque à l'INPI en 2014. À l'époque, on publie Beautiful Bastard, qui est le premier roman dans l'univers de la New Romance venu des États-Unis qu'on publie, qu'on labelle comme la sexy romance de l'été et qui se vend déjà des centaines de millions d'exemplaires.
L'esprit vif, bosseuse et volontaire, Chloé Mills n'a qu'un seul problème, son patron, Bennett Ryan. Exigeant, direct, dépourvu de tact, ou d'une quelconque considération à l'égard d'autrui, il est absolument irrésistible. Un salaud magnifique. Malgré sa réputation, Bennett n'est pas du genre à entretenir une aventure sur son lieu de travail. Mais Chloé est si séduisante qu'il envisage de faire une entorse à la règle. Alors que désir et attirance mutuelle ne cessent de croître, jusqu'à un point limite de non-retour, Bennett et Chloé doivent décider exactement ce qu'ils sont prêts à perdre ou à sacrifier pour continuer à s'auto-posséder, l'un l'autre, sans répit. Christina Loren, Beautiful Bastard.
Il y a des moments dans la vie qui semblent nous définir. Action ou vérité, est-ce que t'es vierge?
C'est un jeu de gamin, non? Pas quand tu joues avec nous.
Je vais faire le gage.
Ton gage, c'est de rouler une pelle à Ardenne.
À quoi est-ce que tu rêves, là?
Ma vie était tellement simple avant lui. Mais maintenant, c'est plus compliqué.
L'histoire d'After, c'est une histoire qui a été écrite sur une plateforme d'écriture canadienne qui s'appelait Wattpad, qui est une plateforme d'écriture sur laquelle il y avait 60 millions d'utilisateurs à l'époque, et qui, en fait, développait le phénomène intéressant de créer des romans qu'on appelait collaboratifs. C'est-à-dire que l'autrice publiait tous les jours des chapitres sur Wattpad, et en échangeant avec ses lectrices, qui augmentaient au fur et à mesure des publications, elle pouvait être amenée, si vous voulez, à faire évoluer son roman et ses personnages. On avait lu que cette particularité de roman collaboratif était très intéressante parce que elle donnait au lecteur la possibilité d'influer sur un texte, ce qui est quand même la base, même si l'éditeur est un peu vu comme dans sa tour d'ivoire à lire des manuscrits sans jamais écouter le retour de ses lecteurs. Pour une fois, et premièrement, Wattpad permettait à ses lecteurs de pouvoir influer sur une histoire. Et entre la qualité du texte d'After déposé par Anatode, plus le storytelling, il nous est venu l'envie d'acquérir les droits pour la France et de le publier en janvier 2015.
Et c'est vrai que c'est des supports qui sont particulièrement propices au développement de fiction qui soit moins normée sur les questions de genre. Donc sur Wattpad, on peut trouver à la fois des romances...
Viviane Albenga, sociologue.
...qui vont rompre avec la norme hétérosexuelle. Donc des romances originales ou des réinterprétations de romances qui existent déjà. Il y a des romances qui sont réadaptées de Twilight avec une réécriture qui accentue par exemple les relations homosexuelles qui pourraient exister entre des personnages qui semblent latentes, qui ne sont pas développées. Et puis, on a aussi des romances qui vont s'adresser aux jeunes femmes musulmanes avec un récit qui va intégrer la religion comme un élément de la séduction, un élément narratif de la romance. Et ça ouvre aussi des possibilités d'identification pour des jeunes femmes qui trouvent pas forcément d'identification dans la littérature qui va être publiée. Feel the morning on my face. Ain't a pill that I didn't
take. Just a lifetime, cause it's been a long day. Et du coup, After a été publié sous le label New Romance, c'est un des premiers parce que la marque a été déposée en septembre 2014 et After est sorti en janvier 2015. Et ça a été le début, si vous voulez, d'un marché qui a cru jusqu'en 2018, avant un petit peu de baisser et de reprendre en 2021 jusqu'à aujourd'hui pour représenter quasiment 8% du marché de l'édition.
Moi, j'ai beaucoup de livres, ils ont ce truc-là, New Romance en rouge sur le dessus.
Moi, j'en reconnais quelques-uns vers là.
À tout jamais.
Celui-là,
jamais
j'ai déjà vu.
Je le vois partout sur Pinterest.
Il s'appelle comment ?
Twisted Love. Moi, c'est Némé. Je suis en terminale.
Moi, je m'appelle Wenji et du coup, je suis aussi en terminale. Moi, j'en ai déjà lu, genre, tu vois, sur Wattpad, c'est une plateforme où il y a beaucoup de personnes qui peuvent écrire des histoires. Il n'y a pas que de la dark romance, il y a aussi de la fantasy, il y a des thrillers, il y a aussi fanfiction, voilà. En fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours deux personnages qui, de base, s'aiment pas et se détestent, entre guillemets, qui se font un peu une guerre, et après, ils vont se côtoyer... de plus en plus, et ils vont tomber amoureux. C'est tout.
Et ça arrive ou pas dans la vraie vie ?
Oui.
Moi, avant cet été, je connaissais pas du tout ce genre de romance, étant donné que je lisais surtout de la fantasy et de la romance, du coup, MF, homme-femme.
Sabrina, lycéenne.
Et j'ai découvert justement avec les Aimées Lou, c'est pour ça que j'aime énormément ces deux autrices, parce qu'elles sont capables d'écrire de la romance homme-femme, comme de la romance homme-homme, comme de la romance femme-femme. Et c'est pour ça que là, du coup, j'ai commencé... 4 saisons différentes qui parlent chacun d'un couple différent. Et par exemple, pour les 4 livres, c'est pas forcément être un homme et une femme qui vont être ensemble.
L'amour, comme toutes les choses de l'univers, ne peut être détruit. Mais au fil du temps, il peut changer. Les chaudes nuits du Texas étaient synonymes de solitude pour Ben, avant que son cœur ne commence à battre au rythme de deux mots, Tim Wyman. De toute évidence, Tim a un corps parfait et une vie idéale. Mais quand ils se rencontrent à cause d'une simple collision, pas vraiment accidentelle, Ben découvre que la vérité est rarement aussi simple. Si gagner le cœur de Tim s'avérait être une quête quasi impossible, le garder est encore plus difficile quand la famille, la société et les émotions menacent de les séparer. Jay Bell, un parfum d'été.
Toi, t'aimes bien le défi, quoi.
Le fait de savoir que le livre finit toujours de la même manière, ça nous fait rester dans notre zone de confort.
C'est-à-dire que si on est là, on lit jusqu'au bout, et qu'on se dit « Ah, ils terminent pas ensemble !» Ça va nous marquer mentalement, voilà.
Même si, du coup, entre catégories, par exemple, entre dark romance, c'est souvent des histoires de personnes enlevées qui vont, du coup, se remettre en couple avec leur kidnappeur. Dans les new romances, c'est souvent du sport. Du coup, moi, j'ai plus la new romance sportive. Du coup, c'est plutôt un sportif qui va sortir avec une autre personne qui est moins populaire ou quoi. Et du coup, la base en elle-même, elle reste dans l'optique de les voir ensemble et heureux. Mais bon, là, c'est pas le cas pour celui-ci, du coup. Mais je mets des petits post-it sur plusieurs nuances de rouge, justement, en fonction du moment et comment ça se rencontrer et de la fin pour justement étiqueter dans l'ordre de la chose. J'ai du violet pour tout ce qui va être des scènes un peu plus dures à lire, qui sont un peu plus violentes.
Le chiffre d'affaires en 2024 de la partie New Romance française a dépassé celui de la partie New Romance américaine. Et ça, c'est très intéressant parce que ça explique aussi ce côté incarnation par des écrivaines françaises de ces codes-là et par aussi le développement de la communauté New Romance qui s'est sentie beaucoup plus proche d'autrices françaises qu'américaines. Après, évidemment, on vend des livres à un public qui est connecté, qui peut être sensible à du marketing. Et l'idée de dire... on markete des livres, n'est pas du tout une idée péjorative, bien au contraire. C'est juste de dire qu'aujourd'hui, ces bons livres-là, pour qu'ils se vendent, il faut absolument faire comprendre et montrer à ses futures potentielles lectrices qu'il est là, qu'il existe, qu'il est de qualité et qu'elles vont lui faire sortir de sa vie de tous les jours et passer un bon moment. Évidemment, une jolie couverture qui répond à des codes modernes.
Oui, là, tout jamais, on voit des fleurs, on sent que c'est l'été... Moi, j'ai une petite romance d'amour d'été, voilà, de jeunesse. Moi, je dis pourquoi pas.
Il y a des livres que je lis pas, je sais pas, ce que j'aime pas l'illustration.
Oui.
Je les ouvre même pas. Quand c'est fin, ou comme ça, tu sais, les écritures, elles sont en gras, où il n'y a pas d'illustration, c'est noir. Ça, j'aime pas.
Et qui répondent aussi à des codes de communication qui sont vus sur les réseaux sociaux, dans la rue. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a une espèce d'adéquation qui doit se faire entre le texte, entre le graphisme du titre, entre le marketing et évidemment tout ça qui doit être lié à l'incarnant et à nos autrices qui sont de réelles influenceuses sur les réseaux avec tout un tas de followers qui non seulement les suivent pour suivre leur vie mais qui achètent leurs livres derrière. Quand vous avez du lead ou en tout cas des followers sur les réseaux sociaux, vous avez plus de probabilité de vendre un livre. Chez Hugo, si vous voulez, on a vraiment l'envie de faire comprendre que l'expérience utilisateur ne doit pas s'arrêter au livre. Nous, en tant qu'éditeurs, on a vraiment l'impression que si on pense que publier un livre, le mettre dans des mains et dire que c'est un produit qui va de la première à la dernière page est suffisant, moi, je pense que l'édition va dans le mur. Il faut absolument argumenter et faire évoluer cette offre avec différents supports et différents univers. Et c'est pour ça qu'autour du marché de la New Romance, on a essayé de construire une expérience physique avec le Festival New Romance, des expériences tout au long de l'année avec des dédicaces, des masterclass et des rencontres entre nos autrices et nos lectrices, mais aussi de demander à nos autrices d'avoir un comportement décent et de défendre leurs valeurs sur les réseaux sociaux pour garder un lien connecté avec leur communauté.
Et toi, t'es sur quel réseau
TikTok. Bah, c'est là où, du coup, la majorité des adolescents sont. Et du coup, bah, vu qu'ils voient que on est là-bas, ils y vont, ils font leur propagande de livres et tout.
Un livre qui revient beaucoup sur ma page Pinterest, je le mets dans mon tableau et après, bah, je l'achète et je le lis.
Tant qu'elles savent ou ils savent que qu'est-ce qu'on aime, autant faire plaire aux clients. Voilà.
Pour moi, ça pose pas de problème. C'est comme ça dans tout, même dans la musique. On nous propose ce qui marche. Donc dans la lecture aussi, on nous propose ce qui marche.
S'il y a des scènes sexuelles un peu chaudes, quoi.
Ah, ok. Trois flammes colorées. Le sexe devient un sujet central du roman au travers de multiples scènes charnelles, très détaillées ou impliquant des pratiques considérées comme intenses et ou non conventionnelles. Je savais pas.
Aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction dans la loi qui empêche un libraire de vendre un type de livre à un public cible. L'effervescence de TikTok et notamment du BookTok a beaucoup rajeuni depuis 4-5 ans. Et la New Romance, si vous voulez, ça va de 14 maintenant à 35 ans, quand la Dark, elle, va plutôt de 16 à 35 ans.
Quand du coup j'ai choisi mon nom d'emprunt, je me suis dit bah faut que ce soit quelque chose qui sonne un peu américain pour que les lectrices... Et ça a marché parce qu'il y en a plein qui pensent que je suis américaine et qui sont hyper surprises de découvrir que je suis française en fait. Enfin en termes de marketing, c'était mieux pour se lancer. La preuve en est que du coup, ça, j'avais pas totalement tort, quoi. Je suis Joyce Keaton, donc je suis auteure de Dark Romance. Je vis dans la région nantaise avec mes trois enfants et mon mari. Et ben, ça prend tout de suite, vraiment tout de suite. Hein. Dans les premiers jours, premières semaines, ça explose à grande échelle. C'était des sommes astronomiques. Hein. Le premier mois, j'ai dû faire 15 000 euros, je pense. Quelque chose comme ça, le deuxième pareil. Et en plus, le deuxième, du coup, il y a Toxic Tom 2 qui est sorti. Donc du coup, ça a encore plus fait boule de neige. Parce que j'avais fait exprès de sortir du coup à un mois d'écart pour pas me faire oublier déjà que j'étais pas connue. Donc je me suis dit, si je sors un livre et que je le sors l'autre 6 mois plus tard, 1 mois plus tard, c'est fichu. Donc du coup, oui, j'avais sorti le tome 2 direct. Donc en très peu de temps, j'ai atteint les 100 000 euros. Enfin, ça a fait vraiment un gros, des grosses ventes. J'ai commencé 2020, je pense. Ouais, 2020, et je l'ai sorti 6 mois après. Je pense qu'aussi, oui, il y a une grosse part, c'est la couverture, et du coup, moi, j'ai fait appel à un graphiste pro, qui, du coup, a tout mis en forme pour que, du coup, le livre puisse être, après, imprimé par Amazon, voilà. Amazon a vraiment une force là-dessus de pouvoir proposer aux auteurs de s'auto-éditer, et du coup, de pouvoir, en vivre, hein, parce qu'en plus, c'est bien rémunéré. Les planètes se sont alignées, parce que, il y avait pas de Dark, là, les booktokers étaient, en pleine expansion, mais en même temps, tout le monde était hyper, leur faisait confiance et tout ça, donc il y a eu vraiment un gros boom. Pendant ce temps-là, moi j'ai écrit Borderline, que j'ai sorti aussi en auto-édition. Les lecteurs m'ont suivi, et après du coup Hugo est arrivé pour me demander quand est-ce qu'il sort le tome 2 Est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà, donc ça s'est fait comme ça.
Avertissement. Comme toujours, je me sens dans l'obligation de vous mettre en garde sur l'intensité de mes écrits. Ce livre aborde des thèmes sensibles tels que la manipulation psychologique, le suicide et le meurtre. Ces sujets, bien qu'extrêmes et parfois bouleversants, sont intégralement issus de mon imagination et ne reflètent en aucun cas une quelconque apologie de ces actes. L'histoire ne vise pas à glorifier la violence, la souffrance ou les comportements destructeurs, mais plutôt à raconter une histoire où ces éléments, bien que sombres, servent à dessiner des personnages profondément complexes. Si ces thématiques vous affectent ou risquent de réveiller des souvenirs douloureux, je vous invite à lire avec précaution, voire à reconsidérer cette lecture pour préserver votre bien-être. Prenez soin de vous. Joyce.
On lit, mais c'est encadré, on est dans notre lit, on est protégé. En fait, on lit un peu en mode « Ouh, c'est touchy, j'ai pas trop... » Voilà, c'est un peu transgressif. Mais en même temps, quand on ferme le livre, voilà, c'est pas la vie quotidienne. Et au contraire, je trouve que plus on parle de notion de consentement, plus on protège les femmes, moins finalement il y a de problèmes à lire des choses qui sont pas hyper cadrées en termes de respect, de consentement, etc. Parce que du coup, ça peut rester une petite sorte de fantasme. Parce qu'en fait, il y a vraiment une grande différence, heureusement, entre les fantasmes et la réalité de nos vies.
À tous les mauvais, les personnages sombres et imparfaits qui hantent mon esprit. Merci pour vos failles, vos contradictions et vos tourments. C'est grâce à vous et à vos ombres qui dansent que les histoires les plus sombres prennent vie, passionnelles, intenses et désespérément humaines. Joyce Keaton.
Les jeunes filles, à l'adolescence et très tôt dans l'adolescence, au moment où les relations amoureuses commencent à devenir un sujet, elles vont chercher dans les livres et les films d'amour aussi des conseils, un guide pour savoir se comporter, quelle situation éviter, quel type d'homme il faut éviter. Donc elles prennent très au sérieux certaines de ces livres. Ça ne veut pas dire qu'elles absorbent comme des éponges ce qui va leur être dit. Elles y vont avec une démarche assez active de chercher des manières de bien aiguiller leur vie amoureuse. Et ce qui est intéressant, ça c'est une autre enquête que j'ai menée auprès de lycéens et lycéennes, c'est que les garçons se moquent des filles parce qu'elles lisent de la romance ou elles regardent des films romantiques. Mais quand on leur demande quelles sont les activités qu'ils aiment bien partager avec des filles, ils mentionnent le fait que c'est bien de se tourner vers les filles pour leur demander des conseils sur les relations amoureuses parce qu'elles sont plus subtiles. Et les mêmes filles disent que leur connaissance de l'amour vient du fait qu'elles vont lire des romances, voir des films romantiques. Et c'est assez intéressant de voir comment il y a un apprentissage alors qui est actif, je soulignerai vraiment cette dimension-là, et qui fait que, ça, dans le même temps, ça alimente l'image de jeunes femmes qui seraient soumises aux représentations de la romance. Alors, c'est pas qu'elles sont soumises à ces représentations-là, c'est qu'elles vont chercher, en fait, des recommandations et surtout aussi, elles repèrent les contre-modèles.
Moi, j'ai des lectrices je dirais une petite dizaine, qui m'a dit que en lisant Borderline, elles s'étaient rendues compte qu'elles avaient vécu des agressions sexuelles, qu'elles s'en étaient pas rendues compte avant. Parce que comme c'est une dark romance et que c'est étiqueté comme tel, elles se sont dit, mais finalement, ça veut dire que c'est pas OK de vivre ça dans la vie. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit que, suite à ça, elles avaient fait tout un travail par rapport à ce qu'elles avaient vécu dans le passé, et dont une qui avait porté plainte, finalement.
Il y a justement une théoricienne américaine, Janice Radway, qui a montré, alors ses premiers articles, c'est le début des années 80.
Estelle Mouton-Rovira, maîtresse de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne.
Et puis elle publie Reading the Romance, je crois, dans les années 90. Elle montre que justement la romance, c'est pas forcément un lieu d'aliénation, mais pour les lectrices populaires, ça peut être un lieu d'interprétation inventive, émancipatrice, ou en tout cas, c'est un espace de lecture qui n'est pas forcément une adhésion sans recul critique, et qui au contraire est un espace de ressource pour le sujet lectrice.
Elle va prendre un petit terrain dans une petite ville du Midwest américain où il y a une librairie qui vend essentiellement de la romance, qui favorise des rencontres entre les lectrices de romance. Et à partir de ce petit terrain, avec une dizaine de lectrices de romance, elle va essayer de faire une étude sans a priori. C'est-à-dire que pour elle, bien sûr, l'objet de la romance Harlequin, bien évidemment pour elle, l'objet en lui-même Harlequin est un objet conservateur. Ça entérine tout un schéma patriarcal de la femme ouverte, sentimentale et prise d'un homme qui évidemment est plus distant, froid, qui va d'abord la malmener, qui ne veut pas s'engager, et puis qui au terme de mille et une péripéties sentimentales va finir par abdiquer cette distance pour épouser ou en tout cas vivre une relation à peu près égale avec la jeune femme du début. Donc ça, c'est un modèle patriarcal. Pour elle, ça fait aucun doute. Mais ce qu'elle veut savoir, c'est comment les lectrices font avec ça. Et ce qu'elle constate au fur et à mesure de ses entretiens avec les lectrices, c'est que c'est pas très clair et que les lectrices souvent déjà rigolent de certaines situations, détestent tous les moments où les relations physiques s'apparentent à du viol, que ça elles aiment pas. Et puis qu'elles font de ce temps de lecture un moment de résistance au sein même de la vie qui est la leur, à savoir celle de femmes au foyer qui sont censées faire à manger, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, etc. Et donc, même si l'objet est conservateur, le temps de lecture de cet objet, lui, est un temps à soi, d'émancipation, de refus finalement de se plier aux injonctions patriarcales, pourtant prônées dans les romans qu'elle lise dans ce temps-là. Donc, elle constate qu'il y a en tout cas du tirage, que c'est pas complètement congruent, que la lecture n'est pas exactement adéquate au modèle proposé. Et puis qu'elles ont un regard critique sur leur mari, qui n'est pas du tout ce qu'elles voudraient. Ce qu'elles voudraient, c'est effectivement des relations plus sensibles, un échange plus équitable, etc., etc. Donc, c'est une manière de pouvoir commencer à fonder quelques critiques ou quelques désirs de relations hommes-femmes qui soient autres. Ce qui est intéressant avec Janice Redwick, c'est qu'elle ne transforme pas non plus le tout en une vision idyllique où on pourrait lire des romances et du coup devenir des super féministes hyper émancipées.
En fait, ça donne des conseils à travers ce qu'on lit. On en apprend peu sur l'humain.
T'as raison.
Et des fois, ça peut nous influencer aussi à entreprendre des choses. Je sais qu'on peut être jugé pour lire de la Dark Romance.
Faut arrêter ça.
C'est comme si on n'avait pas les facultés intellectuelles pour savoir ce qui est bien pour nous ou pas.
C'était Celles qui lisent, épisode 4, trop sensible à la romance. Avec Isabelle Matamoros, Sabrina, Wendy, Némé, Arthur de Saint-Vincent, Viviane Albenga, Joyce Keaton, Estelle Mouton-Rovira, Marie Baudry. Avec les voix de Pascaline Bonnet, Anaïs Isbert et Claire Poinsignon. Prise de son, Nicolas Leroulet, Stéphane Touvenin, Pierre Henry. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Annie Signoret, Antoine Builoz, Archivina, Mylène Touchet, chargée de programme Marie-Vonne Apolivier et Anaïm Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani et Anne Pérez.